les mains de Dieu, dire Seigneur, j'ai besoin que cette présence qui sera ici, que ce soit dans ma vie. J'ai besoin que ta main forte soit sur mes entreprises. J'ai besoin que ta main forte soit sur mon foyer. J'ai besoin que Seigneur tu étendes mes limites dans la connaissance de la parole de Dieu. J'ai besoin que Seigneur tu me prépares aujourd'hui pour que je puisse encore écouter ce que toi tu veux de moi, ce que toi tu veux de ma famille. J'ai besoin que Seigneur tu m'aides. Tu as eu des requêtes, tu as prié pendant les années passées. Et jusque là tu n'as pas encore été exaucé, tu n'as pas encore eu la réponse. Tu vas dire Seigneur pendant ces deux semaines, ça sera les deux semaines de supplication. Pendant ces deux semaines, j'ai besoin de voir encore ta grâce. Pendant ces deux semaines, j'ai besoin, Seigneur, que ton Saint-Esprit me dirige. Pendant ces deux semaines, tu es malade. Tu vas dire à Dieu, pendant ces deux semaines, tu as besoin de la guérison. Tu es malade. Tu vas dire, pendant ces deux semaines, tu as besoin de la guérison. Tu as des enfants. Tu vas dire, pendant ces deux semaines, je voudrais dédier mes enfants encore entre tes mains, Seigneur, pour que cette année 2024, que Père de gloire, toi seul, tu diriges mes enfants. Tu as un ministère pendant ces deux semaines. Tu vas dire toute prière qui s'élèvera vers toi, Seigneur, à ce lieu, que ce soit pour ma vie aussi. Pendant ces deux semaines, Seigneur, tu es là, notre Dieu, notre roi. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Écoute tes enfants te prier. Écoute tes enfants te prier, Seigneur. Écoute la voix. Et écoute même les soupirs du cœur de quelqu'un ici, Père de gloire. Il y a ceux qui nous suivent aussi en ligne. Il y a ceux qui nous suivent en ligne, Seigneur. Écoute leurs prières. Écoute la prière de chacun, notre Père, notre Dieu. Tu as dit que cette maison sera une maison de prière. Pendant ces deux semaines, nous serons toujours là, en train de te prier, de t'évoquer. Nous avons besoin que Seigneur, toi seul, tu règnes. Nous avons besoin que ta présence règne parmi nous, Père de gloire. Tu es digne de ton nom, Yahweh. Tu es digne de ton nom, Père de gloire. Tu es celui qui marche avec nous, Seigneur. Père de gloire, merci pour ce moment. Yuko Mungu Minguni. Yuko Mungu Minguni. Asike ae maombi etu. Yuko Mungu Minguni. Seigneur, merci, merci. Sois loué, sois adoré à jamais. Merci d'avoir exaucé la prière de mon frère et de ma soeur à ces lieux. Seigneur, nous abandonnons ton serviteur entre tes mains. Il veut nous parler de ta part. Utilise-le puissamment. Nous abandonnons cet auditoire entre tes mains, Seigneur. Les moments que nous serons en train d'écouter la parole de Dieu, sois aussi en train de délivrer chacun de nous. Sois en train toujours de répondre aux requêtes de quelqu'un. Seigneur, le moment que nous serons en train d'écouter la parole de Dieu, Seigneur, nous prions que tu te révèles particulièrement à chacun. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Merci infiniment. Merci Père de gloire. Sois loué, sois adoré à jamais. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut faire plus que ça encore? Nous acclamons le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le maître des temps et des circonstances. Essayez aussi de saluer ceux qui sont assis à côté de vous en leur souhaitant la bienvenue. Si vous ne connaissez pas les noms, c'est une occasion pour demander les noms. On ne sait pas toujours ce qu'une salutation peut enfanter. Amen. Je bénis grandement Dieu pour la grâce qu'il me donne d'être là ce matin, afin d'être le canal qu'il va utiliser pour nous transmettre sa pensée. Et par la grâce de Dieu, nous serons ensemble aujourd'hui, mais aussi tout au long de cette semaine que nous allons commencer dans ce programme de prière et de jeûne. Amen. Mais permettez-moi de dire merci avant de commencer à porter la parole de Dieu à notre papa, le pasteur, parce que pour être là, je suis venu par la grâce de Dieu, mais Dieu n'est pas directement descendu du ciel pour nous amener jusqu'ici. Il est passé par des canaux humains. Merci au pasteur. Merci aussi à tous les autres serviteurs de Dieu qui sont autour du pasteur, avec qui font l'œuvre de Dieu en ces lieux. Est-ce qu'on peut acclamer pour honorer Dieu, pour notre révérend pasteur, pour tous les autres pasteurs? Merci aussi à mon pasteur, il s'appelle révérend Banyene. Le pasteur de l'église 8e, c'est pas que la source. Parce que si je suis venu, c'est avec sa permission et sa bénédiction. Je lui suis aussi reconnaissant. Bah, permettez-moi encore une fois de m'acquitter d'un autre devoir. La dernière fois où j'étais ici pour un séminaire, j'étais célibataire. Mais Dieu permet que je rentre marié. J'aimerais demander à mon épouse de se tenir debout. Merci chérie. Merci pour vos prières, ceux qui avaient eu à prier pour nous. Dieu avait exaucé ces prières. Amen. J'aimerais nous proposer un texte de la Bible. Jacques chapitre 5, les versets 17 à 18. Jacques chapitre 5, les versets 17 à 18. Jacques 5, 17 à 18. Ce texte va nous servir pour apporter ce qui sera notre introduction pour tout au long de cette semaine. Jacques, chapitre 5, les versets 17 à 18. Jacques 5, 17 à 18, je lis pour nous tous dans le nom de Jésus. Je disais, j'ai lu dans le nom de Jésus. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit, acclamant la parole du Seigneur. Jacques est en train de parler, il nous parle de cet homme merveilleux appelé Élie. Et j'aime ce qu'il est en train de dire en ce début de ce texte que nous venons de lire. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Un homme de la même nature que nous, ça veut dire qu'il était un homme constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit comme nous. Ce n'est pas un esprit qui a vécu sur la terre, contrairement à nous. C'est un homme qui avait le même composé, le même constitution que nous. S'il nous arrive d'avoir faim, s'il nous arrive d'être fatigué, cela a été aussi la même chose avec Élie. Élie était un homme pas différent de nous. Un peu pour nous dire que ce qui est arrivé à Élie n'était pas particulier qu'à lui. Ça peut aussi être possible à nous parce que nous sommes des hommes faits de la même nature que lui. Et la Bible déclare, Élie pria et au travers de sa prière, il n'a pas plu sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. C'est parce que quelqu'un essaie de s'imaginer ça. À cause de la prière, il n'a pas eu de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Une seule personne qui prie, mais les effets et les retombées se passent sur toute la terre. 3 ans et 6 mois, il n'a pas eu de pluie. Et la Bible dit encore, il pria de nouveau et il commença encore de nouveau à pleuvoir. Et la terre produisit son fruit. Alors que nous sommes au début de ce programme de jeûne et de prière, j'aimerais juste nous donner 2 choses importantes en ce qui est de la prière. Et de là, nous allons continuer avec notre enseignement pour ce matin. La première des choses que ce texte est en train de nous enseigner sur la prière, c'est que la prière est capable de changer les saisons. La prière est capable de changer les saisons. Au travers de la prière que cet homme a eu à faire, la Bible déclare, il y a eu changement de saison. La saison normale et que la pluie pleuve pendant ces 3 ans et 6 mois. Mais parce qu'un homme a eu à prier, il y a eu changement de saison. Pendant 3 ans et 6 mois, il n'a pas eu de pluie sur la terre. La prière, frères et sœurs, est capable de changer les saisons. Je ne sais pas en quelle saison tu te trouves. Je ne sais pas, peut-être tu as eu à faire face à une saison qui ne te plaît pas. Tu as besoin de vivre un changement de saison. Dans un ou un autre domaine, je suis venu te dire ce matin que la Bible nous propose la prière comme un moyen qui est capable de changer les saisons de la vie. La prière est capable de faire à ce que quelqu'un qui était dans la saison du chômage trouve un travail. La prière est capable de faire à ce que quelqu'un qui était dans une saison de perte, que la perte s'arrête. La prière est capable de faire à ce que quelqu'un qui était dans une saison de secousse au sein de son foyer, au sein même de sa famille, que cette saison s'arrête. La prière est capable de changer les saisons. Et la Bible dit encore, il pria de nouveau et la pluie revint encore. Une saison qui s'était arrêtée est revenue encore parce qu'un homme a eu à prier. La prière, au-delà de changer de saison, la deuxième des choses est que la prière est capable de nous ramener une saison que nous avions perdue. La prière est capable de nous ramener une saison que nous avons eu à perdre. Il y a de ces personnes qui peuvent être là ce matin, en ce début d'année, ils sont en train peut-être de regretter les saisons qu'ils ont eu à perdre dans l'année passée. Ils auraient voulu revivre les saisons qu'ils ont eues. C'est un peu comme les enfants d'Israël qui disaient une fois, « Ramène-nous le jour d'autrefois. » Peut-être quelqu'un est là ce matin, il est en train de faire cette prière du fond de son cœur. Il dit à Dieu, « Ramène-moi cette saison où les choses marchaient. » Ramène-moi cette saison où c'est comme si la faveur de Dieu était de mon côté. Ramène-moi encore cette saison. Et la Bible est en train de nous enseigner ce matin que la prière n'a pas que la capacité de changer les saisons, mais la prière est capable de nous ramener une saison que nous avions perdue. La prière est capable de nous ramener les saisons que nous souhaitons revoir encore. Mais la Bible nous dit, Élie pria avec instance, et il n'eut plus de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Il pria de nouveau et il tomba encore de nouveau sur la terre la pluie. Mes frères et sœurs, j'aimerais nous dire en ce début de ce programme de prière, tel que nous serons là, nous allons prier ensemble. Mais les prières d'impact, ce sont des prières qu'on fait individuellement et seul dans le secret. Qu'est-ce que je suis venu nous dire ce matin? Alors que nous serons là pour la prière, pour ce programme de prière et jeûne, ne te limite pas qu'aux prières que nous allons faire en ces lieux. Rassure-toi qu'au-delà des prières que nous avons ici, tu as des moments seul à seul avec Dieu. Tu as des moments individuels et personnels avec Dieu. C'est là que l'impact de la prière se forge, seul dans le secret. Parce qu'en parlant de prière, il existe des prières communautaires, des prières que nous avons ou que nous aurons à faire en ces lieux ensemble tels que nous sommes. Mais à part les prières communautaires, il existe des prières familiales, là où la famille se réunit autour de la prière, là où la famille ne se réunit pas ensemble autour d'un film, autour d'une série télévisée. Non, non, la famille se réunit autour de la prière. On appelle ça prière familiale. C'est au-delà de cette prière que nous avons ensemble au niveau communautaire. Au niveau communautaire, nous sommes en ces lieux ensemble, nous aurons un moment de prière, mais au-delà de ce moment de prière, rassurez-vous que chez vous, à la maison, vous avez des prières familiales. Mais au-delà de prières familiales, il existe troisièmement des prières conjugales. Les prières conjugales, c'est lorsque le conjoint se réunit autour de la prière. Je ne parle pas des fiancés, je parle des conjoints autour de la prière. Ils se rencontrent ensemble, ils mettent tout de côté pour chercher Dieu. Ça veut dire, rassurez-vous, en tant que couple, au-delà des moments que nous allons passer ensemble en ces lieux, tout au long de ce programme de prière, au-delà même des moments que vous allez passer ensemble en famille, en train de prier, en train de chercher Dieu pendant ces 14 jours, rassurez-vous que vous avez un moment ensemble en tant que conjoint pour chercher Dieu et pour prier. Mais au-delà de prières conjugales, Il existe alors quatrièmement ce qu'on appelle de prière personnelle ou de prière individuelle. Les prières personnelles, c'est lorsque vous êtes seul avec Dieu, seul à seul avec Dieu. Qu'est-ce que j'aimerais nous dire ce matin? Les prières communautaires ne comblent pas le manque de prières personnelles. Les prières familiales ne comblent pas le manque de prières personnelles. Les prières conjugales ne comblent pas le manque de prières personnelles. Ça veut dire, au-delà des prières que nous aurons à faire ensemble en ces lieux, en tant qu'Église, rassurez-vous que vous avez des moments seul à seul avec Dieu. Seul à seul avec Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle prière personnelle. Rassurez-vous que vous avez des moments comme ça. Ou loin de programmes de l'Église, ou au-delà de ces programmes que nous avons pris ensemble pour être en train de prier, vous allez passer des moments seul à seul avec Dieu en train de prier. La Bible nous dit, Élie a prié seul. Seul. Et il y a eu des résultats à ces prières. Alors ce matin, j'aimerais nous partager quatre batailles auxquelles nous aurons à faire face pour arriver à avoir de prières personnelles efficaces. Quatre batailles auxquelles nous aurons à faire face pour arriver à avoir des prières personnelles efficaces. Ces quatre batailles, vous n'aurez pas à faire face à ces quatre batailles simplement pendant ce programme de prière. Des 14 jours où nous serons là à chercher Dieu. Même après ces 14 jours, tout au long de cette année, si vous voulez maintenir votre culte personnel, maintenir vos moments personnels de prière, vous aurez à faire face à ces temps-ci. Quatre batailles. La première bataille, je l'appelle la bataille de la discipline. Aide-moi à dire à celui qui est à tes côtés, bataille de la discipline. Frères et sœurs, tout au long de ces programmes de prière, si vous n'êtes pas un homme, une femme disciplinée, vous ne saurez pas maintenir ou vous maintenir dans vos prières personnelles. Souvenez-vous, vous étiez en train de dire l'impact de prière peut se faire collectivement. On peut vivre l'impact de prière au niveau collectif, mais l'impact de prière se forge seul à seul avec Dieu et dans le secret. Alors rassurez-vous, au-delà des moments où nous allons venir en ces lieux chercher Dieu, que vous avez des moments seul à seul avec Dieu. Ces jours-là, après qu'Adam et Ève aient péché, Dieu arrive, il vient comme il le faisait toujours. Et il appelle, il dit, Adam, où es-tu? Après avoir finalisé avec Adam, il va à Ève, il dit, Ève, pourquoi as-tu mangé du fruit? Ils sont tous au même endroit après avoir péché, mais lorsque Dieu arrive, il ne dit pas, Adam, Ève, où êtes-vous? Il dit, Adam, où es-tu? Et Ève, pourquoi as-tu mangé? Comment ils sont tous au même endroit, mais lorsque Dieu arrive, il ne leur parle pas au pluriel. C'est parce que même dans un contexte communautaire, l'intimité avec Dieu reste personnelle. Rassure-toi, au-delà d'être dans ces contextes communautaires, que tu bâtis quelque chose de personnel avec Dieu. Et pour arriver à maintenir cela, la première bataille à laquelle tu auras à faire face, je l'appelle la bataille de la discipline. Frères et sœurs, retenez ceci par rapport à la bataille de la discipline. La première des choses, la décision nous aide à commencer, mais c'est la discipline qui nous aide à achever ce que nous avons commencé. Il arrive qu'on prenne de très bonnes décisions. Ah, pendant ce programme de prière, je vais aussi prier. Tout au long de cette année, je vais aussi méditer ma Bible. C'est bon comme décision. Mais si tu n'as pas une discipline qui va avec la décision que tu as prise, tu te rendras compte que tu vas commencer, mais tu ne vas pas achever ce que tu as pris comme décision. La décision nous aide à commencer, mais c'est la discipline qui nous aide à achever ce que nous avons commencé. Je disais une fois ici, mais j'aimerais encore y revenir. Il y a des études qui ont été faites dans plusieurs États des États-Unis autour des résolutions annuelles que les gens prennent au début de l'année. Vous vous rendez compte, lorsque l'année commence, il y a plusieurs résolutions que les gens prennent. Cette année, moi aussi, je vais faire ça. Cette année, moi aussi, je vais lancer une entreprise. Cette année, moi aussi, je vais écrire un nouveau livre. Cette année, moi aussi, tout ça, on appelle ça résolution annuelle. Et après avoir fait des enquêtes dans plusieurs États, ils ont réalisé six choses. La première des choses, c'est qu'au début de l'année, 40 à 50% de la population prennent des résolutions annuelles. 40 à 50% de la population. Remarquez qu'il y a des gens au début de l'année qui n'ont aucune résolution annuelle. Si vous lui demandez cette année, toi aussi, tu veux vivre quoi avec Dieu? Rien. Il veut subir l'année. Lui ne s'attend à rien. Il y a des gens comme ça. Mais la deuxième chose qu'ils ont découvert, c'est que 70% de ces résolutions que les gens prennent au début de l'année sont oubliées après la deuxième semaine de janvier. Cette année, moi aussi, je vais méditer ma Bible et je vais lire ma Bible, Genèse, Apocalypse. Le premier, tu vas lire. Le deuxième jour, tu vas lire. Le troisième jour, tu vas méditer. Et puis après, tu sautes 3 jours. Les 7 encore. Et après les 7. Troisième chose, ils ont réalisé que 80% des résolutions annuelles qui sont prises au début de l'année sont oubliées après la deuxième semaine de février. 80%. Quatrièmement, ils ont réalisé que 46% de personnes, seules 46% de personnes qui avaient pris les résolutions annuelles au début de l'année continuent à y tenir à la fin du mois de mars. Ils ont réalisé, cinquièmement, qu'au mois de juin, il ne reste que 30% des gens qui ont pris des résolutions annuelles. Et puis, ils ont découvert qu'à la fin de l'année, il n'y a que 8% de ceux qui avaient pris des résolutions annuelles qui y tiennent. 8%. Alors que vous faisiez l'évaluation de l'année passée, vous aviez dit que vous alliez lancer une entreprise. Cette entreprise est restée dans quel mois? Vous aviez dit que vous aussi, vous allez méditer votre Bible, Genèse, Apocalypse. Vous avez fini dans quel mois? Un nouveau livre, un nouveau chant, c'est resté en quel mois? Et lorsqu'ils ont essayé de poser des questions par rapport aux causes qui faisaient à ce que la plupart de ces résolutions n'avaient pas été tenues jusqu'à la fin de l'année, la plupart des gens ont dit que c'était à cause de problèmes de discipline. Manque de discipline. La décision t'aidera à commencer, mais c'est la discipline qui t'aidera à achever ce que tu as commencé. La deuxième des choses à retenir en ce qui est de la bataille de la discipline est que la discipline commence lorsqu'on réalise qu'il y a des choses qu'on doit faire, pas seulement parce que ce sont de bonnes choses, mais parce que notre vie en dépend. Il y a des choses que nous sommes censés faire ou ne pas faire, pas seulement parce que ce sont de bonnes choses, mais parce que votre vie en dépend. C'est comme par exemple, chaque jour nous nous lavons. J'aimerais voir qui s'est lavé ici la dernière fois, les jours de Noël. Chaque jour nous nous lavons. Mais la question c'est pourquoi nous nous lavons chaque jour? Est-ce que mwili ni masani, voilà, pour qu'on se lave chaque jour? C'est parce qu'à un moment je sais que se laver, ce n'est pas que bon, mais ma vie en dépend. Si je ne me lave pas, le corps va développer des démangeaisons. Si je ne me lave pas, je vais développer des maladies. C'est ce qui fait que même lorsque l'atmosphère n'est pas favorable pour que je me lave, je vais chercher des mécanismes à faire. Soit chauffer l'eau, mais me rassurer que je me sois lavé ce jour-là. Et la discipline commence lorsqu'on réalise qu'il y a des choses que nous sommes censés faire, pas simplement parce que ce sont de bonnes choses, mais parce que notre vie en dépend. Frères et sœurs, est-ce que vous savez qu'il y a des choses dont votre vie en tant que parent dépend? Tu ne peux pas être un véritable parent à la hauteur de l'exercice de ton appel dans cette génération si tu n'es pas un homme, une femme de prière. Tu ne peux pas marcher dans la victoire par rapport même à certains péchés, par rapport à la vie de la sanctification, si tu n'es pas un homme, une femme de prière. Tu ne peux pas exceller avec Dieu. Si tu n'es pas un homme, une femme de prière, la prière n'est pas que bonne, mais comprends qu'au-delà d'être une bonne chose, ta vie en dépend. Et dès que tu atteins ce niveau-là, on ne t'efforce pas pour prier. C'est comme un jour, je rencontre quelqu'un qui me dit, homme de Dieu, vraiment, je ne sais pas, je ne comprends plus, je n'arrive plus à prier. Depuis un temps, pendant que je prie, je me rends compte que je me suis endormi. Elle pose la question, ok, tu pries généralement entre quelle heure à quelle heure? Il dit, entre 0h à 2h. Il dit, ok, c'est bon. Je ne sais pas comment est venue la question. Est-ce que par hasard, tu n'es pas en train de prier au lit? Elle dit oui. Alors, entre 0h à 10h, tu te mets à genoux sur le lit, tu prends la couverture, tu te couvres, tu laisses et tu commences à prier. Et tu t'étonnes que tu t'es endormi. Parce que je sais que ma vie en dépend. L'atmosphère n'est pas favorable. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais me tenir à genoux Oui, il fait froid, mais je serai à genoux parce que je sais que là, je ne vais pas m'endormir. La discipline va commencer lorsque tu vas réaliser qu'il y a des choses qui ne sont pas que bonnes, mais ta vie en dépend. Ta vie dépend de la prière. La prière n'est pas que bonne, ta vie dépend de la prière. Alors fais tout pour te rassurer que tu as prié. Quatrième chose en rapport avec la bataille de la discipline, c'est que la discipline commence avec la notion de priorité. Il n'y a pas de discipline sans notion de priorité. Et dans la notion de priorité, il existe premièrement des choses urgentes. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle des choses nécessaires. Troisièmement, il y a des choses urgentes mais pas nécessaires. Quatrièmement, il y a des choses nécessaires mais pas urgentes. Et cinquièmement, il y a des choses qui sont à la fois urgentes et nécessaires. Parmi toutes ces choses-là, la prière est à quel niveau chez vous? Vous savez, frères et sœurs, on aura toujours du temps pour ce qui est une priorité pour nous. Lorsque tu dis que tu n'as pas du temps pour prier, mais que tu ne manques pas du temps pour être sur TikTok, ça veut dire simplement que TikTok est beaucoup plus prioritaire pour toi que la prière. On a toujours du temps, quelle que soit notre charge horaire, pour ce qui est une priorité pour nous. En disant que tu n'as pas le temps de prier, simplement pour dire indirectement que la prière n'est pas une priorité pour toi au point de créer du temps pour prier. Il n'y a pas de discipline sans notion de priorité. Est-ce que la prière est devenue une priorité pour toi? Alors chacun de nous, frères et sœurs, est censé avoir ces moments-là où il se dit, chaque jour je mettrai de côté ce temps ici pour chercher Dieu. C'est bon qu'on passe des moments personnels ensemble en ces lieux, en train de prier avec les autres. C'est bon qu'en famille vous ayez le temps de prier. C'est bon qu'entre conjoints vous ayez le temps de prier. Mais même tout au long de ces programmes, si vous n'avez pas des moments personnels de prière, vous allez rater ces 14 jours. Vous voulez maximiser ces 14 jours? Rassurez-vous qu'au-delà des temps qu'on va passer ensemble en ces lieux, même chez vous à la maison, même dans votre bureau, où que vous soyez, que vous mettez de côté un moment personnel pour la prière. Et il est possible de se dire, je prierai pendant quelques minutes. Je prierai de telle heure à telle heure. Et au niveau de la bataille de la discipline, vous avez vaincu. Mais la deuxième bataille à laquelle vous aurez à faire face, je l'appelle la bataille de la concentration. Bataille de la concentration. Vous est-il déjà arrivé d'être dans la prière? Dire je prierai de telle heure à telle heure. Au niveau de la discipline, vous avez su tenir à ce que vous aviez décidé de faire. Mais pendant que vous commencez à prier, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas concentré dans la prière. Parce que c'est une chose de prier et c'est une autre chose d'être concentré pendant qu'on prie. Alors beaucoup de gens aussi n'arrivent pas à maximiser de leur moment de prière personnelle ou de leur culte personnel parce qu'au-delà de la bataille de la discipline, ils font face à la bataille de la concentration. Alors quelles sont les choses qu'il faut faire pour vous aider à vaincre la bataille de la concentration? La première des choses, débarrassez-vous de tous les voleurs du temps. Débarrassez-vous de tous les voleurs du temps. Vous savez, on sait qu'il y a des voleurs du temps. Le tout premier voleur du temps, il est ici. Le téléphone. C'est impossible de passer des moments de qualité avec Dieu au niveau personnel pendant que lorsque tu pries, tu as prié avec la connexion de données activée. Et puis tu es en train de prier, tu entends vous, vous. Et puis à un moment, tu t'es déconcentré dans la prière pour aller regarder sur le téléphone et tu te rends compte que c'était un message d'Airtel. Qu'est-ce que tu fais? Vous savez, frères et sœurs, les chercheurs disent que pour reprendre la même concentration que vous aviez avant, lorsque vous êtes concentré à la prière ou à la méditation de la parole de Dieu, après vous être déconnecté pour regarder à quelque chose, ça vous prend au moins 45 minutes. Ça veut dire pendant que je prie ou pendant que je médite la parole de Dieu, si je le peux, je mettrai mon téléphone en mode avion. Si je ne le peux pas, si c'est trop demandé, je mettrai mon téléphone en mode silencieux. Et pendant qu'il est en mode silencieux, je ne vais pas les laisser comme ça. Je les fais comme ça. Et je les mets loin de moi.
Mais à part le téléphone, un autre voleur du temps, un grand voleur du temps,
la télé. Là où tu peux passer des heures devant de la télé, mais la Bible est devenue un somnifère. Des heures, 4 heures devant la télé, mais lorsque tu prends la Bible, somnifère. Là où tu peux passer des heures en train de regarder une série, mais lorsque tu seras en train de prier, tu commences la prière aujourd'hui, tu diras Amen demain. Là, tu te rends compte là au milieu, tu t'es endormi, tu ne sais pas comment. Et demain, Seigneur, Amen à cette prière que je faisais hier.
Tu dois arriver à te débarrasser de tous les voleurs du temps. Un autre voleur du temps, ça s'appelle les hommes. Frères et sœurs, il y a des gens qui vous volent votre temps pour rien. Tu as passé avec lui 1 heure, 2 heures. Tout ce qu'il n'a fait que te raconter, ce sont les modèles de mèches qui sont sortis, sans que vous ne soyez des entrepreneurs dans ces domaines-là. Et, oh, tu as vu, il était habillé comme ça les dimanches. 2 heures de ton temps, pour rien comme ça. Les Anglais disent le temps c'est l'argent, mais le temps n'est pas l'argent. Le temps c'est plus que l'argent. Parce qu'avec beaucoup de temps, tu peux te faire beaucoup d'argent, mais avec beaucoup d'argent, tu ne peux pas te faire beaucoup de temps. Frères et sœurs, rassurez-vous que vous débarrassez de tous les voleurs du temps. J'aime Jésus parce qu'en parlant de Jésus, la Bible dit qu'il pouvait renvoyer la foule et aller prier. N'attendez jamais qu'un jour, vous soyez sur WhatsApp, sur Facebook, sur TikTok, en train de faire passer des histoires. Et qu'on vous envoie un message. Maintenant là, on va perturber la connexion pour que les chrétiens aillent prier. Ça n'arrivera jamais. Vous êtes sur Canal Plus Pop, The Bachelor.
Regardez.
Et il y a quelque chose qui tombe. Paca! C'est le moment pour les chrétiens d'aller prier. Frères et sœurs, Jésus, tu dois attendre que la foule le laisse pour aller prier. La foule ne le laissera jamais. Il y a des choses, c'est à vous de mettre fin à cela afin d'aller chercher Dieu. N'attendez pas que la télé vous accorde le temps d'aller prier. Il y aura toujours de nouvelles choses à regarder sur la télé. Il y aura toujours de nouvelles choses sur TikTok. Mais si vous ne savez pas tout abandonner pour aller prier, vous ne prierez jamais. Alors rassurez-vous, pour être concentré dans la prière, vous débarrassez de tous les voleurs du temps.
Mais une autre chose qui aide pour vaincre la bataille de la concentration, c'est se connaître. Vous devez vous connaître. Il y a beaucoup de gens qui ne se connaissent pas. Vous devez vous connaître. J'aime comment les Anglais le disent. Les Anglais disent qu'il y a des gens qu'on appelle « the morning persons and evening persons ». Donc les hommes du matin et les hommes du soir. Il y a des gens facilement, lui il se réveille très tôt le matin pour faire tout ce qu'il doit faire. Il peut se réveiller à 3h, 4h, il est déjà éveillé pour commencer déjà à travailler. Mais il y a d'autres personnes, lui depuis qu'il existe, il ne s'est jamais réveillé très tôt pour commencer à faire des choses. À moins qu'il soit vraiment contraint à le faire. Et si Dieu vous a créé comme quelqu'un du soir, vous mettez vos moments personnels de prière très tôt le matin, sans même beaucoup de prophéties, vous n'irez pas loin.
Alors découvrez comment est-ce que Dieu vous a créé. Et bénéficiez de cela. Maximisez cela. Et si vous êtes quelqu'un de très tôt le matin, rassurez-vous de dormir très tôt.
Mais tu dois prier très tôt le matin. Et jusqu'à 1 heure, tu es en train de regarder la télé. Et que le réveil va sonner, tu fais ça.
Une troisième chose qui aide à maximiser la bataille de la concentration, c'est apprendre à prier ou à méditer sa Bible à haute voix. Apprendre à prier à haute voix. Un jour, on demande à Jésus, dans Luc chapitre 11, le verset 1er, il dit, enseigne-nous à prier. Il dit, quand vous priez, dites. Ça veut dire, dans la prière, il faut apprendre à dire.
N'avez-vous jamais réalisé que lorsque vous priez intérieurement, vous êtes facilement déconcentré? Tu vas commencer à prier, mais tu penses aux enfants, à la facture qui est venue hier, le courant.
Mais pendant que tu apprends à prier en parlant, ça t'aide à maximiser la concentration. Alors lorsqu'on sera en train de prier, parce que tout au long de cette semaine, j'aimerais vous prévenir qu'au-delà d'enseigner, on va passer des bons moments en prière. Alors lorsqu'il faudra prier, ne priez pas kimoyo-moyo. Prie avec des paroles. Et ce n'est pas parce qu'on nous a demandé de prier avec les paroles que si vous dormez dans une chambre où il y a trois personnes, vous allez vous réveiller pendant la nuit. Rassurez-vous d'être dans un cadre qui vous facilite cela. Si peut-être chez vous, à la maison, c'est compliqué, si dans votre bureau, c'est compliqué, vous pouvez même faire un saut ici. C'est toujours ouvert, vous venez, vous priez. Mais rassurez-vous que vous maximisez vos 14 jours de prière. Troisième bataille, ça s'appelle la bataille de la sécheresse. Il y a de ces personnes qui peuvent être concentrées dans la prière, mais on se rend compte qu'on connaît une certaine sécheresse dans la prière. Je parlais premièrement de la bataille de la discipline, deuxièmement la bataille de la concentration, troisièmement la bataille de la sécheresse. On a l'impression de ne rien tirer de ce qu'on est en train de faire. On commence à le faire juste par formalité ou par formalisme. Et d'où peut provenir la sécheresse dans la prière toutes les fois qu'on s'approche de Dieu? Premièrement, la sécheresse peut venir d'une vie de désobéissance à Dieu. S'il y a des choses que vous êtes en train d'entretenir dans votre vie, Dieu vous reproche toujours de ça, mais vous ne voulez pas vous repentir. Toutes les fois que vous allez vouloir prier, vous allez sembler sécher. N'avez-vous jamais réalisé que c'est impossible de passer des moments de qualité avec un ennemi? Quelqu'un avec qui vous avez des problèmes, et puis il vient, hey, raconte-moi tes histoires, comment tu vas dire? Anzi à Kwanza au début, commence d'abord par finaliser avec le problème qui est entre nous. Tu ne peux pas passer des moments de qualité avec un ennemi. Tu ne peux pas passer des moments de qualité avec Dieu s'il y a des choses que Dieu te reproche, desquelles tu ne veux pas te repentir. Et ce qui fait que quelqu'un, il peut être là, il a fait du mal à son époux, à son épouse. On a Sirkiana. Tu ne veux même pas lui parler ou la parler, et puis tu vas commencer à prier. Seigneur, 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 il te dit, va d'abord demander pardon. Et puis reviens ici. Si tu t'entêtes, tu auras l'impression de sécher pendant que tu pries. Tu pries, oui, mais tu sèches. C'est comme un ami qui pria un jour. Il avait fait du mal à son épouse et pendant qu'il était en train de prier, il dit, mon père, mon père, mon père. Dieu lui dit, est-ce que tu sais que je ne suis pas que ton père, je suis aussi le père de ton épouse. Elle dit, rassure-toi que tu as des problèmes. Imagine, tu as des problèmes avec ton beau-père parce que tu as fait du mal à sa fille et tu viens le voir. Mon beau-père, mon beau-père. Va d'abord commencer. Alors rassurez-vous pendant ce moment de prière, débarrassez-vous de toute chose qui peut être un obstacle afin que vous passiez des moments de qualité entre vous et Dieu. S'il y a des choses que Dieu vous reproche, assurez-vous que vous êtes repenti. Mais la sécheresse peut venir deuxièmement aussi des conditions physiques dans lesquelles on se trouve pendant qu'on cherche Dieu. Conditions physiques. En parlant des conditions physiques, je parle de la fatigue. Ne priez pas pendant que vous êtes fatigué. Nous, à l'église, la plupart des moments de ma vie, je les ai passés à l'école le dimanche. J'ai été moniteur de l'école le dimanche pendant 9 ans et aussi à l'intercession. Et à l'intercession, on pouvait voir des histoires. Je me rappelle un jour un frère qui est venu dans le programme d'intercession parce que c'était généralement le soir, chaque lundi, et il est arrivé, il fait un travail qui faisait qu'il soit ambulant. Il marche dans toute la ville, il circule dans toute la ville. Alors il revient le soir à l'intercession, il est très fatigué. Et pendant qu'on était en train de prier, quelqu'un l'a entendu en train de dire, Jésus, je te chasse, Jésus, je te chasse, Jésus, je te chasse. Tu chasses Jésus? Les responsables lui ont dit, va dormir, va dormir. Ne prie pas pendant que tu es fatigué. Ne médite pas la parole de Dieu pendant que tu es fatigué. Ce ne sera que des simples formalités, mais assure-toi, au lieu de dire que tu te reposes d'abord et puis tu te réveilles un peu tôt pour prier. Mais ne prie pas pendant que tu es fatigué. Dans les conditions physiques, il y a aussi le manque de repos. Reposez-vous. Pendant ces moments de prière, assurez-vous que vous vous êtes reposé suffisamment pour passer de bons moments de qualité avec Dieu en étant concentré. Une autre chose qui peut nous amener à sécher lorsque nous cherchons Dieu, dans notre moment personnel de prière avec Dieu, c'est lorsque nous commençons à le faire par routine. Pas par soif, par routine. Viens avec soif. La soif de Dieu est ce qui brise la routine. Vous savez, Dieu est le même, mais il n'est pas dans les routines. Il n'est pas toujours un Dieu routinier, mais il est le même. Alors, qu'est-ce qui vous motive à chercher Dieu toutes les fois que vous devez le faire? Vous savez, dans le monde autour de nous, il y a des gens qu'on appelle des musulmans. Les musulmans ne prient pas à n'importe quel moment. Si vous dites à un musulman, on va prier maintenant, il vous dira, ce n'est pas l'heure de la prière. Les musulmans ne prient pas pour rencontrer Dieu, ils prient pour accomplir leurs heures de prière. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans spirituels. Ils ne prient pas avec la motivation de rencontrer Dieu. Ils prient pour accomplir ces heures de prière. Rassurez-vous que la motivation principale qui vous amènera dans la présence de Dieu, toutes les fois que vous cherchez Dieu, c'est le rencontrer afin d'être comme lui. Rencontrer Dieu. La soif de Dieu. La soif de Dieu est capable de vous accorder ce qu'aucune main de l'homme ne peut vous accorder. La soif de Dieu est capable de vous insérer dans un programme dans lequel vous n'étiez pas au départ. Ça m'appelle ce jour-là où Jésus est en train d'aller. Sa destination, c'est aller chez Jaïrus. Et la Bible dit, pendant qu'il était sur le chemin, il y a une femme qui a souffert de la perte des sangs pendant 12 ans. Elle s'est dit en elle-même, si seulement je peux toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Et la Bible dit, elle est même venue par derrière parce que sa motivation principale, c'était Jésus. Personne d'autre. C'était pas Pierre, c'était pas Jean, c'était pas Jésus simplement. Et la Bible dit, lorsqu'elle est venue, elle a touché Jésus. Il y a des choses qui ont quitté Jésus pour la toucher. Et Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Elle qui n'était pas dans le programme de Jésus est entrée dans le programme de Jésus à cause de la soif. Et ce que j'aime, ce que Jésus dit, je reconnais qu'une puissance est sortie de moi. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus n'est pas comme Isaac. Les jours où Isaac a béni Jacob, après qu'Ésaü vienne, ils disent à Dieu, « Seigneur, mon père, est-ce que tu peux me bénir ?» Le père lui dit, « Je n'ai plus de bénédiction, j'ai tout donné à ton frère. » Si Jésus était comme Isaac, la fille de Jaïrus n'allait pas recevoir sa bénédiction. Ce n'est pas parce qu'il a accordé la bénédiction à la femme de la perte des sangs que la fille de Jaïrus aussi n'aura pas sa part. Donc ça veut dire, malgré les choses que Dieu donne aux autres, ils n'ont pas épuisé les stocks pour que toi aussi tu aies ta part. Mais la seule chose qui peut nous permettre d'avoir accès à cela, ça s'appelle la soif. Et dernière bataille, là où nous finissons, c'est la bataille de la persévérance. La bataille de la persévérance. La persévérance. C'est bon de prier pendant 14 jours, mais est-ce que vous allez persévérer dans la prière? Il y a des choses que nous n'allons jamais vivre, ni voir de la part de Dieu, si nous ne savons pas persévérer dans la prière. Persévérer. Matthieu 7, 7, la Bible dit, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Quatre types de prières qui existent, trois types de prières qui existent. Premièrement, ce sont les prières instantanées. Lorsque vous demandez, on vous donne au même moment que vous avez demandé. Mais il y a deuxièmement des prières du type « frappez et l'on vous ouvrira ». Pendant que vous frappez, dès que vous toquez à la porte, il faut attendre un peu et on vous ouvre. Ce sont les prières qui nécessitent de celui qui prie la patience. Mais troisièmement, il y a des prières du type « cherchez et vous trouverez ». Le temps qu'on met à chercher est grand que le temps qu'on a mis à demander, on nous donne, ou le temps qu'on a mis à frapper, on nous ouvre. Ce sont des prières qui exigent de celui qui prie la persévérance. Et on persévère en priant. Ça veut dire la réponse à une prière non encore exaucée sur la prière. Mais la persévérance aussi, frères et sœurs, c'est persévérer malgré tout ce qui sera source de découragement autour de vous. À un moment, vous aurez comme l'impression que lorsque vous commencez à prier, plutôt que les choses deviennent bonnes, les choses se compliquent de votre côté. Dieu un jour a envoyé Moïse. Il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu leurs pleurs, je me suis décidé de les délivrer. Et puis il dit à Moïse, va voir Pharaon et dis-lui cela. Il prend les chefs des enfants d'Israël, ils vont vers Pharaon, ils disent à Pharaon, Dieu a dit, laisse aller mon peuple afin qu'il aille me servir. Et Pharaon dit, toi Moïse, Aaron, vous êtes des aventuriers, vous voulez distraire le peuple comme ça. Il dit, il les chasse, au-delà de les chasser, il appelle les chefs de corvée, il dit, rendez la tâche compliquée en leur faveur. Et la Bible dit, ces gens-là vont voir Moïse, il dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Moïse lui-même, il va vers Dieu, il dit à Dieu, est-ce que c'est vraiment toi qui m'as appelé? Au lieu que les choses deviennent bonnes, les choses se compliquent de leur côté. Mais tout ce qu'ils avaient oublié, c'est que des fois, lorsque le diable s'agite, ça veut dire que Dieu est en train d'agir. Des fois, la preuve que la délivrance a commencé, ce ne sera pas que les choses deviennent bonnes, mais que les choses s'empirent. C'est là que vous pouvez être en train de prier, Seigneur, guéris ces membres de famille qui sont en train de souffrir. Mais plutôt, au lieu que les choses deviennent, les choses se compliquent. Alors plusieurs personnes, ils se laissent décourager par cela. Ils arrêtent de prier. Mes frères et sœurs, persévérons dans la prière, même lorsque les choses se compliquent. Parce que lorsque tu vas persévérer, que tu verras les résultats ou la solution de ce que tu cherches. Mais si tu te laisses décourager par cela, tu ne vas pas vaincre. Alors on va continuer demain. J'aimerais là où tu es que tu fermes tes yeux et tu vas faire une simple prière. Dis à Dieu, pendant ce moment de prière, je vais avoir des moments seul à seul avec toi. Dis à Dieu, je vais vaincre la bataille de la discipline, je vais vaincre la bataille de la concentration, je vais vaincre la bataille de la sécheresse, je vais vaincre la bataille de la persévérance, afin que ces moments de prière soient vraiment un moment qui va marquer un avant et un après dans ma vie. Est-ce que tu peux parler à Dieu là où tu es? Parle à Dieu là où tu es. La prière est capable de changer les saisons. La prière est capable de ramener une saison perdue. S'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. S'il y a un homme pour chercher Dieu, il y a un Dieu pour se révéler. Mais tout dépend de ton attitude pendant ce moment de prière. Demande à Dieu de t'aider à maximiser ce moment de prière.